pretend that we should know better. We should know better, and I just can't help but feel like we should know.
Alright, bonjour tout le monde, et vous écoutiez Glass Heart de Casquette, qui est sincèrement une toune qui est vraiment intéressante. Pour eux, c'est pas comme la toune la plus originale et la plus malade sur Terre, sauf que quelque chose qui est vraiment cool et honnêtement vraiment fucking inquiétant avec Spotify, c'est rendu à quel point genre les playlists sont capables de guesser tes goûts avec un niveau de précision incroyable. Puis j'étais comme dans une loop, mes gros problèmes de vie. J'étais comme dans une loop sur Spotify où est-ce que Spotify, il fait comme des playlists. Puis essentiellement, il faisait juste me repitcher des tunes que j'avais déjà écoutées puis que je connaissais. Puis tout, puis j'avais comme un petit désir de nouveauté. Puis cette tune-là a popé, justement. Puis je la trouve vraiment cool dans la catégorie Metal Heart, qui est pas la tune la plus originale au monde, mais vraiment une bonne petite tune à écouter dans votre training. Pour vrai, c'est Glass Heart de Casquette qui fait vraiment du bien. Changer la routine un petit peu pour ça. Fait que si vous aimez le genre, ça ressemble un peu à. Hurricane, comment il s'appelle ce Ben-là? God, j'ai mis tellement de tunes, deux autres en entrée, puis je suis même pas capable de m'en souvenir. I Prevail, c'est I Prevail. C'est comme un genre de I Prevail un peu plus soft, qui était un des groupes les plus appréciés que j'avais mis en ouverture, fun fact. Podcast d'aujourd'hui, le beau, le mauvais, le méchant, du Hip Trust, qui est un truc qui est vraiment intéressant pour vrai avec le Hip Trust, parce que c'est un des exercices sur lequel j'ai plus changé ma position, voire potentiellement celui que j'ai le plus changé ma position. Puis je trouvais ça intéressant de, minimalement pour justifier au client pourquoi j'ai changé ma position sur cet exercice-là, mais aussi pour parler un peu de l'évolution de ce type-là qui était très en mode. Il y a définitivement des modes dans le temps de l'entraînement. Puis je pense que j'avais été un peu victime de ça. Puis là, avec mon intro, je ne suis pas en train de dire que l'hip-trust est un mauvais exercice d'arrêter de faire du hip-trust, mais je vais juste conter une petite histoire de pourquoi ce lift-là, il a vraiment changé pour moi dans ma perception de c'est quoi le lift et à quoi il sert. Parce qu'au début, puis c'est une vraie histoire, puis je vais avoir l'air colon. En général, les mondes aiment ça quand je compte des histoires où est-ce que j'ai l'air stupide. Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait, c'est que même les plus, c'était vraiment un exercice qu'il y a un moment dans ma carrière où est-ce que je le mettais dans les gros lifts, sérieusement, où est-ce que je mettais deadlift, squat, bench, hip thrust, tu sais, je l'incluais carrément dans la liste des gros exercices, des muscles, puis des fondamentaux en entraînement, tu sais. Puis j'étais comme un peu à cet extrême-là, à un tel point où est-ce que dans un club d'haltéro, j'avais rallongé inutilement les preps. C'était colon ce que j'avais fait. Mais dans ce temps-là, je pensais que je savais comment faire généralement de la même manière. J'ai un client qui m'a conté de quoi que j'ai trouvé vraiment, vraiment drôle. Qui m'a dit, si jamais tu gères un projet puis que la personne commence avec « moi, je suis ingénieur », fuis, merde. Fais juste immédiatement fuir ce projet-là parce que ça va vraiment, vraiment mal virer. J'ai trouvé ça bien drôle. Puis c'est un peu la même affaire. Dans ce temps-là, quand tu fais une prep puis ça commence avec « moi, je suis entraîneur » ou « moi, je suis kin », sors tout de cette préparation-là, sors tout de ce programme-là, Ben, parce que ça ne verra pas bien. Puis moi, j'avais fait une prep d'haltéro pour un club d'haltéro la première année que j'étais là. Puis c'était vraiment. Je suis retombé sur cette prep-là pour rester vraiment de la merde. Je m'excuse. Je m'excuse à tout le monde qui avait suivi cette préparation-là. Où est-ce que, dans le fond, le truc que tu as en haltéro, c'est qu'il y a, puis dans beaucoup de sports, c'est qu'il y a un haut niveau de spécialisation qui est associé. C'est genre, OK, le monde ne sont pas des généralistes, puis c'est pas parfait. Puis il faut arrêter d'essayer de tout balancer parfaitement bien. T'es comme, un sport nécessite un certain déséquilibre dans le sens que tu ne veux pas que le monde soit bon dans tout, tu veux qu'il soit bon dans leur sport. Dans le sens que si tu as le meilleur joueur de hockey sur une glace, ça ne te dérange pas tant d'être à combien sa game de golf quand il est au final. Ou quand il est dans une game de la Coupe Stanley. C'est comme. C'est pas tant la fin du monde de son score au golf, tu sais. Puis en tant que préparateur physique, on a beaucoup cette idée-là de tout mettre, d'essayer de tout rentrer des groupes musculaires, puis qu'il faut que tout soit là parce qu'on a comme une espèce d'idée de le corps humain est un parfait origami qui doit être en équilibre fucking parfait, qui n'est pas nécessairement quelque chose de faux, dans le genre que si tu t'en vas trop loin dans un extrême, bien clairement que c'est pas optimal. Mais je pense que cette idée-là de tout garder parfaitement balancé, c'est un gros problème aussi, puis c'est quelque chose que j'ai essayé de faire avant, puis particulièrement avec des haltérophiles où est-ce qu'essentiellement le sport c'est squat, 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 comme clean and jerk c'est du squat, snatch c'est un squat, fait du back squat en assistance parce que c'est un des exercices qui se transfère le plus avec du front squat aussi, que j'étais comme wow, il y a trop de squat, faut qu'on mette du deadlift, faut qu'on mette du hinge un peu. Puis l'affaire qui se passe avec l'haltéro aussi, c'est que tes problèmes de genoux en haltérophilie, c'est très fréquent à cause de la quantité déraisonnable de squat qu'on fait. Fait que j'étais comme hip thrust, une bonne alternative, puis on va juste rajouter ça. Sauf que je me suis ramassé à tellement prolonger inutilement des preps juste à cause de l'installation du hip thrust, tout, que c'est ça, c'est un gros problème avec le hip thrust. Puis dans ce temps-là, c'était ça pour moi. Le hip thrust, c'était un exercice fondamental que je mettais à tout le monde. Puis c'est encore un exercice qui est important, juste, je pense qu'il a changé de catégorie, puis j'aimerais ça expliquer pourquoi ou c'est quoi mon raisonnement derrière ça. Okay? C'est encore un exercice que je mets, probablement tous les jours, mais c'est plus le pain puis le beurre de l'entraînement de fessier comme ça a déjà été pour moi, puis voici pourquoi. Je vais commencer ça bien simple, je vais partir avec les bons puis les mauvais côtés, sérieusement, ou les côtés moins bons avec le hip thrust. Puis juste pour le ramener une fois, je ne pense vraiment pas que c'est un mauvais exercice. Même au contraire, je pense que ça peut être une excellente alternative à intégrer pour différentes raisons qu'on va checker ensemble. Mais l'hip thrust est au mieux incomplet puis potentiellement insuffisant aussi, qui est exactement ce qu'on va voir ensemble direct à maintenant. Les bons côtés du hip thrust. En commençant avec les bons côtés. Les bons côtés du hip thrust, le premier, c'est que c'est un exercice qui est tellement fucking simple à faire. Tu te mets sur un bench, tu t'organises pour que le bench arrive à peu près à hauteur de tes omoplates, tu lèves tes fesses dans les airs, puis dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu fais l'amour à une barbelle. C'est pas tant, puis sérieusement, c'est pas mal juste ça. OK, tu peux lever, tu peux mettre tes hanches, tu peux prendre un banc qui change un peu, tu peux mettre tes pieds un peu plus en ouverture, tu peux prendre certaines largeurs de pieds, mais on s'entend que l'exercice reste relativement facile. C'est pas comme un deadlift que, all right, passe à pousser tes fesses, reste tête, fais ci, fais ça. Ça reste beaucoup plus brainless comme exercice. Puis sincèrement, plus que je vieillis, plus que j'ai de l'amour avec la simplicité de genre, ah, man, que ça me fait chier des prep ou des exercices plus compliqués, des affaires que c'est compliqué. J'haïs ça pour mourir, sincèrement. Ce qui est vraiment drôle en sachant que je viens du CrossFit puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de complexité dans le monde du CrossFit, dans ça. Mais on dirait que je suis rendu juste allergique à ça. Puis tu sais, tout ce qui n'est pas genre un exercice simple où est-ce que je traque la charge que je mets, les reps que je fais, on dirait que ça me turn off bien raide en ce moment. Qui est la principale raison, pour faire un spoiler pour lequel j'aime pas l'hip thrust, c'est que autant qu'il est simple, l'hip thrust, pas que j'aime pas, mais que j'aime moins l'hip thrust, c'est que c'est tellement de la marde de s'installer pour hip thrust que la complexité d'installation fait que c'est un truc que je pense à deux fois à cette heure de mettre parce que surtout dans un contexte de home gym ou de crossfit où est-ce que ça te prend tout ton fucking espace s'installer pour l'hip thrust, c'est moins vergeux un peu. Mais on va revenir au mauvais côté parce que l'hip thrust a définitivement des bons côtés, dont sa simplicité. Sa simplicité est vraiment, vraiment une force, puis ça doit être souligné. C'est vraiment le fun des exercices qui sont simples d'apprentissage. Puis en plus de la simplicité, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le hip thrust a une particularité qui n'est pas unique au hip thrust, mais qui est vraiment, vraiment, qui est presque unique au hip thrust. Dans le sens que tu mets beaucoup, beaucoup de charge en tension, en position contractée pour le muscle. Le fait d'avoir une position contractée, où est-ce que c'est le top, où est-ce que tu viens squeezer tes fessiers, ça fait que le ressenti musculaire est généralement beaucoup mieux. Fait que quand tu as du monde qui ont de la misère à sentir leurs fessiers travailler, ce qui est le cas de la plupart des filles au gym, c'est un très bon exercice à mettre parce que justement, le fait que le mouvement est principalement en force contractée, ça fait que le ressenti est généralement mieux puis que le monde semble plus travailler leurs fessiers, ce qui donne une excellente base avec laquelle travailler pour vrai pour la plupart du monde. Parce que bonne chance, mon homme, à hypertrophier ou à développer un muscle que tu ne sens pas bien travailler. Ou ma fille, dans ce cas-ci. Parce que non, ma fille, ça fait vraiment, vraiment étrange. Ça fait genre vieux monsieur qui donne des bonbons un peu. Là. Ma femme, c'est encore pire. Bonne chance, vous, au féminin. Qui fait ça, man? Pour vrai, à juste comme... Peut-être vous l'avez pas rapport. Je sais pas si je vais la garder ou non. Mais anyway, t'sais, bonne chance à développer un groupe musculaire que tu n'es pas capable de bien sentir travailler. Sérieusement, ça va être vraiment difficile. Puis le hip thrust a cette forme-là, a cette force-là par rapport au fait que justement la grosse partie des fessiers se fait justement dans la position contractée de quand tu lèves tes fesses en haut vers le ciel, t'sais, dans le fond. C'est vraiment, vraiment là que ça va te créer en position contractée. Puis ça, c'est vraiment, vraiment une très bonne affaire. Aussi, c'est que ce mouvement-là directement est une fonction directe des fessiers. À savoir que ça, c'est tout le temps le fun quand tu entraînes directement dans un contexte de à quoi le muscle sert, qui est l'extension de la hanche, qui est la principale fonction des fessiers qui est visée dans le cadre d'un hip thrust, ce qui est vraiment, vraiment quelque chose de super intéressant à aller chercher, pour vrai. Un autre avantage du hip thrust qui est très, très important de souligner, c'est que c'est possible de mettre une shit tonne de charge sur un hip thrust, ce qui est vraiment intéressant parce que la plupart mais les fessiers sont des muscles qui sont somme toute très, 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 très forts. Là. Fait que, tu sais, le fait d'avoir une grosse charge, d'être dans une fonction directe du fessier, c'est quand même vraiment intéressant parce que ça vient chercher ce côté-là. Puis c'est un plus vraiment, vraiment non négligeable. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'autre affaire aussi, qui est potentiellement la chose la plus importante, fait que, tu sais, on se ramasse dans une situation genre où est-ce que tu viens travailler la position contractée qui est, comme je le disais, pas spécifique au hip thrust, mais que l'hip thrust fait vraiment, vraiment particulièrement bien, sincèrement, avec une possibilité de faire beaucoup, beaucoup de charges, ce qui est vraiment intéressant, connaissant ce qu'on sait des fessiers. C'est un gain vraiment avantage, puis ça reste un excellent exercice à mettre dans un programme, sincèrement. Puis l'autre aspect, c'est que tu as beaucoup de filles qui n'aiment pas ça lifter. Genre qui n'aiment pas ça faire du gros dead, qui n'aiment pas ça faire du gros bench, qui n'aiment pas ça faire du gros squat, mais qui aiment bien le hip thrust. Fait que dans ce cas-ci, le hip thrust fait un excellent substitut de lifting en raison du fait que tu as une barre que tu peux charger relativement vite, puis que ça reste un mouvement qui est relativement compound comme exercice, qu'on va le voir tantôt, qui est justement un des reproches que je vais faire au hip thrust après. Ça reste un exercice qui est relativement compound parce que quand tu fais ton hip thrust, la partie extension de la hanche, c'est somme toute pas une très grande partie du mouvement. Tu sais, c'est vraiment, vraiment une toute petite partie. Puis tu as beaucoup, beaucoup de flexion de genoux aussi quand tu es en position. Puis surtout quand tu remontes, tu vas avoir de l'extension de genoux aussi. Fait que tu as beaucoup de flexion, extension de genoux avec un peu d'extension de la hanche, puis de flexion de la hanche quand tu vas descendre, évidemment. Mais tu sais, c'est principalement une extension du genou avec une extension de la hanche. Fait que tu vas aller chercher quand même pas mal de squats, tu vas aller quand même chercher beaucoup de quads puis beaucoup de fessiers. Ce qui le rend quand même assez complet, genre en termes de saisie d'exercice, puis c'est pour ça que moi je l'avais aussi mis avant dans la catégorie des lifts un peu, parce que ça vient chercher quand même pas mal d'exercices, pas mal de muscles, pas mal d'exercices, ça vient chercher quand même pas mal de muscles en même temps. Puis il y a beaucoup des filles, il y a beaucoup de filles qui n'ont pas tant d'amour particulier pour le deadlift, mais qui aiment bien faire du hip thrust. Fait que là, tu te ramasses à comme checker un peu plus la partie compound avec un peu plus de contrôle, un peu plus de stabilisation que tu en aurais dans un leg press, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très intéressant pour un hip thrust. Fait que, somme toute, les hip thrusts ont des super bons côtés, sincèrement. C'est vraiment, vraiment un bon exercice. Puis c'est là qu'on va tomber. Fait que, si tu l'utilises pour ces raisons-là, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très positif. Puis je vais essayer de faire un petit recap afin de pourquoi je m'en sers encore puis dans quel contexte que je m'en sers encore. Ceci étant dit, les hip thrusts ont définitivement plus qu'un côté négatif. Je parle du barbell hip thrust en ce moment ici. Vraiment, vraiment pour être clair, parce que je vais proposer d'autres alternatives justement de hip thrust après. Mais le barbell hip thrust avec une barre que tu loads, tu mets des poids, il y a quand même un côté négatif. Le principal que j'ai vraiment, vraiment spoilé, c'est genre l'installation d'un hip thrust est misérable. Surtout si tu t'entraînes dans un gym où est-ce qu'il y a moindrement du monde, où est-ce qu'il y a moindrement de l'affaire, où est-ce que tu n'as pas tant d'espace pour lifter, ce qui est le cas de la plupart des gyms. Genre dans beaucoup de gyms, on va cacher les cages à squat dans le fond, on ne va pas donner tant d'espace pour lifter parce que la plupart du monde cherche des machines, cherche des affaires un petit peu plus soft, cherche des fucking elliptiques, des affaires comme ça. Fait que tu sais, le fait de squeezer les cages à squat, puis là, tu utilises les deux barres du cage à squat pour faire du hip thrust, ça, tu peux pas le faire tant dans la cage, fait que là, tu bosses de la place. L'installation est un bordel, particulièrement quand tu commences à mettre lourd. Puis ça, ça te demande de trouver un banc ajusté à ta hauteur, ce qui n'est pas tout le temps le cas, sincèrement, ce qui est souvent pas le cas, à moins que tu achètes le petit fucking coussin de Brett Contreras qui va fucking bien, d'ailleurs, cette affaire-là, ça va vraiment, vraiment bien. Mais tu sais, puis un autre côté positif du hip thrust, c'est que tu as du monde qui ont des super résultats avec ça. J'en ai des clients qui ont passé beaucoup de temps à hip thrust qui ont eu des super résultats avec ça, sincèrement. Mais, règle générale, l'installation est misérable, tant en setup logistique. Puis ça vient encore pire quand tu mets des grosses barres. Où est-ce que là, t'es couché à terre, t'as la barre sur toi, man, tu mets des grosses charges, tu t'essouffles. Faut que tu pousses la barre de toi, tu te relèves, tu recharges ta barre. Puis après ça, quand c'est fini pour mettre plus lourd pour tes autres sets, mettons, prendre pour qui tu fais un warm-up, ce qui est ce que tu devrais faire. Fait que tu fais ton warm-up, c'est des affaires, faut que tu te relèves pour recharger ta barre. Fait qu'il y a une lourdeur associée à cet exercice-là qui est vraiment, vraiment présente. T'sais, surtout quand le monde s'entraîne à temps limité, ce qui est la plupart du monde, tu sais, de passer beaucoup de temps à gosser, puis à pousser à bord, puis à installer, ça rallonge vraiment inutilement le training. Tandis que tu pourrais avoir d'autres exercices où est-ce que l'installation, le warm-up, la logistique est vraiment, vraiment plus simple. Ce qui est vraiment le côté principal négatif que moi je reproche au plus, pour vrai, qui est la raison pour laquelle je m'en sers pas tant, je m'en sers souvent, mais que je m'en sers moins qu'avant, c'est vraiment de considérer l'aspect logistique. Je veux pas que la personne se fasse chier à faire ses affaires, puis surtout quand tu as du monde, sur dans un contexte de home gym, tu pense à deux fois avant de mettre du hip thrust, juste à cause du setup, sincèrement. À moins que tu aies vraiment quelqu'un qui aime ça et qui est prêt à dédier un espace ou dédier un setup, généralement, ça ne sera pas ton go-to pour cette raison-là. Par contre, ça peut être un excellent choix d'exercice, encore une fois. Fait que ça, c'est comme plus logistique, plus comme moi qui est une petite princesse là, du côté de ça, ce que beaucoup de monde sont aussi, c'est important pour vrai. Il y a quelque chose de simple à juste arriver, puis là, je prends le leg extension en comparaison. Il y a quelque chose de vraiment simple à juste t'asseoir au gym sur la machine de leg extension, mettre ta charge, faire un warm-up, mettre ta charge de travail, ready to go. C'est pas exactement la même affaire que, all right, là, c'est le temps de faire mon hip thrust, je viens de finir mon squat, mettons. Là, je sors ma barre du rack, je roule mes plates plus loin de mon rack à squat, je mets mon bench, j'accote mon bench sur de quoi pour pas que mon bench y glisse. Puis après ça, je me mets en position, je fais un warm-up, après ça, je pousse ma barre, je vais chercher des plates, je remets, je me recouche à terre, je me remets dans le départ qui est un peu awkward. Fait que tu sais, cette simplicité-là que tu as avec d'autres exercices, ça vaut vraiment, vraiment de quoi. Mais d'un point de vue plus entraînement, qui est 15 minutes après la raison pour laquelle je faisais ce podcast-là, ce que je reproche un peu plus, d'un point de vue vraiment qualité physique, c'est d'abord et avant tout une mauvaise compréhension de ce que le monde veut de ma part. Dans le sens que le hip thrust peut être quand même une descente alternative pour aller générer de la force, principalement en raison du fait que tu es capable de charger un peu, puis qu'il y a un certain transfert quand même au deadlift, de genre, ça de ce que j'observe, particulièrement sur de la misère avec ton lockout, ça peut être une excellente idée d'aller pousser, mettons, ton hip thrust, faire un gros cycle de hip thrust, puis vraiment, vraiment se charger en priorité pour aller vraiment renforcer ça, tous ces muscles-là. Mais, somme toute, le range of motion, l'amplitude de mouvement du hip thrust est relativement petite, voire quand même très, très, très petite, ce qui est quand même assez problématique en termes de capacité d'avoir vraiment, vraiment justement une bonne amplitude puis mettre beaucoup, beaucoup de tension sur le muscle parce que dès que tu t'en vas dans une amplitude qui est un peu plus grande, tu vas shifter dans ton quad, dans le cas d'un hip thrust un peu. Fait que si tu voudrais juste aller cibler tes fessiers, ton amplitude, ça serait plus ce qu'on appelle un cast hip thrust. Puis l'amplitude, c'est juste la partie où est-ce que tu squeezes tes fesses. Puis essentiellement, c'est que quand tu commences à descendre tes hanches puis que tes genoux reculent, ce qui est vraiment, vraiment pas tant que ça, je vous dirais. Ben là, tu perds ton amplitude, tu es rendu un peu plus dans tes quads. Fait que, tu sais, juste de faire le lockout ou la partie où tu pognes tes fessiers, ton amplitude va être très, très, très courte sur un hip thrust, ce qui est quand même assez problématique, sincèrement. Fait que, tu sais, t'as pas une capacité de loader puis de faire vraiment des gros mouvements puis de mettre beaucoup, beaucoup de tension. Puis ça vient encore pire lorsque tu analyses la courbe de force du hip thrust, qui est, fun fact, une force de ce que j'ai dit du hip thrust. Le hip thrust a une capacité de squeezer vraiment, vraiment beaucoup en position contractée, puis met beaucoup de tension en position contractée, ce qui est quelque chose qui est vraiment bien, particulièrement lorsqu'on tombe en main de muscle, puis en capacité de bien ressentir les muscles travaillés. Malheureusement, ça devient de plus en plus clair dans la littérature scientifique que la partie excentrique, fait que vraiment la retenue, mais ça fait longtemps que c'est clair, en fait, que la retenue, mais là, il y a beaucoup de gains qui sont à aller chercher dans vraiment comme retenir la charge d'un point de vue développement musculaire, d'un point de vue vraiment purement hypertrophie. Puis étant donné que l'amplitude du hip thrust est très, très petite, c'est quelque chose qui est relativement difficile à faire. Là, de, tu sais, faire un tempo de 3-4 secondes sur un hip thrust, tu vas aller lentement en maudite merde, man. Là. Ça ira pas très vite, puis ça sera pas super le fun, puis pour en rester vraiment dans tes fessiers, fait que tu sais, si tu fais juste la partie des fessiers, mettons, si tu fais le quad, c'est un peu moins pire, mais généralement, on met cet exercice-là pour justement aller chercher plus de fessiers. Fait que là, on se ramasse à défaire l'intention, tu sais. Mais la petite amplitude rend ça quand même problématique, surtout ce qui est contrôle d'excentrique, surtout ce qui est contrôle de négatif, qui est quand même fortement associé à l'hypertrophie. Ça, c'est quelque chose qu'on savait avant dans le passé. Puis l'autre affaire, c'est qu'on commence à se rendre compte dans la littérature scientifique que la partie étirée, qu'il y a des pauses en position étirée, qui est dans le cas du hip thrust qui serait en bas, ou est-ce que dans le fond, tu as presque, dans mettons, je vais aller avec des exemples plus simples, parce que là, c'est quand même plus complexe un peu, mais tu sais, mettons, si je fais un bench press, ben vraiment, de quand la barre est à côté sur moi, de vraiment venir stretcher mon pec, étirer mon pec. Si je fais un chin-up, quand je suis en bas, de vraiment venir comme étirer mon lat, puis sentir le stretch, sentir les muscles, les fibres qui étirent, toutes ces affaires-là. Puis, dans un squat aussi, tu sais, c'est de tout sentir ce stretch-là, ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup associé à l'hypertrophie. Puis, c'est encore une théorie, mais ça commence à être une théorie qui est très, très, très convaincante. De vraiment, pour l'hypertrophie, de vraiment milquer, c'est un mot. De vraiment profiter, c'est encore pire, man. De vraiment passer du temps en position étirée, c'est quelque chose qui serait vraiment spécifique. Puis, le hip thrust fait pas ça. Il n'y a à peu près aucune tension qui va être mise sur le fessier en position étirée, ce qui est plate parce que la plupart des femmes s'en servent exactement pour cette raison-là. Puis là, je dis filles depuis tantôt parce que la plupart des filles font du hip thrust. Tu sais, moi, les gars, j'ai fait un concours avec mes clients de force que j'organise en fait au monde. Ça va être malade, ça, sérieusement. Ça va être vraiment, vraiment cool. On va faire une compétition juste intra-momentum, fait que juste les clients de momentum, je vais louer un gym à Trois-Rivières. Ça va être une grosse compétition de deadlift. On va avoir du monde qui sont spécialisés en barbecue qui vont nous faire de la bouffe sur place. Ça va être fucking malade, OK? Puis tu sais, les gars, ils ont commencé à troller quand j'ai fait un sondage, parce que j'ai fait un sondage pour savoir quel lift vous vouliez faire, puis à peu près toutes les filles ont répondu deadlift, ce qui n'était pas quelque chose que je m'attendais, sauf deux, mettons. Puis les gars, ils ont commencé à niaiser en disant « on va faire un concours de gars d'hip thrust, mettons. » Puis c'est comme ça, pour vrai, genre la... c'est quand même une bonne joke, par exemple. Faut que je donne que c'était une bonne joke. Mais tu sais, les gars, ils ont commencé à niaiser avec ça, « on va mettre du hip thrust dans la catégorie de force. » Puis c'est un peu ça, genre, pour un homme au gym. Il y en a qui aiment ça, puis c'est bien correct, c'est pas un mauvais exercice, puis il n'y a pas d'exercice genré. C'est pas mauvais, là, c'est pas ça que je dis. Là. Mais tu sais, dans la culture de l'entraînement, c'est un exercice un peu plus de femmes, c'est un exercice que les gars trippent moins à faire un peu. De la même manière que les kickbacks de fessiers. C'est pas tant que les gars aiment pas ça, c'est juste que c'est pas tant que ça n'a pas de pertinence pour les gars, c'est juste que les gars aiment pas ça. Puis c'est bien correct, man. Au-delà de toute la conversation de qu'est-ce qui est un homme, qu'est-ce qui est une femme, au-delà de la conversation de la théorie du genre déterminée ou ces affaires-là, au-delà de ça, les gens ont le droit d'avoir des intérêts différents, man. Puis c'est bien correct. Puis c'est très correct. Genre, OK, il n'y a pas de stress avec ça. Puis généralement, c'est ça la position des gars sur les hip thrust. C'est pour ça que je parle plus de filles en ce moment quand je parle du hip thrust. Mais tu sais, la plupart des filles se servent d'un hip thrust pour développer leur fessier ou dans un optique vraiment d'hypertrophie, ce qui est, somme toute, l'hip thrust, c'est pas le best des exercices pour faire. C'est un excellent exercice pour développer ton main muscle. C'est un bon exercice en assistance. Je dirais, une fois que tu as eu un gros lift, tu as eu une grosse affaire, que je vais donner d'autres alternatives tantôt, qui va vraiment venir te défoncer les fessiers plus en encore. J'arrête pas d'utiliser les termes weird. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour ça. Une fois que tu vas vraiment t'avoir magané les fessiers, tu vas faire beaucoup, beaucoup travailler tes exercices, tes fessiers avec un autre gros exercice. Mais je pense qu'en secondaire ou même après un troisième exercice comme un finisher, ça peut avoir beaucoup, beaucoup de valeur d'aller chercher quelque chose comme un hip thrust. Mais une fois que tu as fait ça, que tu as vraiment mis quelque chose où est-ce que tu as beaucoup d'amplitude, que tu peux vraiment mettre beaucoup, beaucoup de tension sur ton fessier, où est-ce que tu peux faire des pauses en position excentrique avec avec justement des négatifs qui sont très lents, là, ça va avoir de la peine d'en mettre. Mais comme l'hip thrust n'est plus le pain et le beurre qu'il était pour moi, puis c'est exactement pour cette raison-là, parce que je pense que quand on se fie vraiment aux objectifs purs des clients, des clientes dans ce cas-ci, qui est de développer des fessiers, c'est pas lui qui va faire la meilleure job pour ça. Par contre, c'est un exercice qui a beaucoup, beaucoup de valeur dans certains contextes. Il y a des contextes qu'on va jaser un peu en ce moment. Premièrement, si tu aimes l'exercice, be my guest, have fun, fais-le. Un exercice que tu aimes, que tu pousses toujours, que tu pousses et que tu as envie de faire et que tu as envie de progresser, va te donner pas mal plus de résultats qu'un exercice qui est théoriquement meilleur selon les anatomistes. Ce n'est pas selon les physiologistes de l'entraînement ou ces affaires-là. C'est un exercice que tu aimes, que tu as envie de pousser. C'est pas un mauvais exercice. Have fun, pousse-le, puis profite-en, puis progresse. Puis si tu ajoutes 100-150 livres sur ton épreuve, c'est jure que tes fessiers vont grossir. Ce ne sera pas ça le problème. T'sais. Par contre, il y a d'autres alternatives aussi qui sont potentiellement très intéressantes, voire potentiellement mieux, principalement lorsqu'on considère l'aspect logistique, qui est vraiment de la merde à installer, je vous dirais. Le premier contexte où est-ce que ça a beaucoup de valeur de mettre du hip thrust, c'est quand tu as du monde dans un contexte limité d'installation et de matériel. Où est-ce que, tu sais, si tu t'entraînes chez vous, puis tu as juste accès à un gym, ou tu es dans un gym de CrossFit ou en affaire de même, où est-ce que tu n'as pas de machine, comme des Nautilus Hip Drive, des exercices que je vais parler. Ben, si tu veux mettre des fessiers, man, oui, tu as des lunges, des affaires comme ça, mais le hip thrust risque d'être quelque chose que tu vas mettre assez vite parce que ta capacité de loader en position contractée, si tu n'as pas de poulie ou si tu n'as pas de machine, est quasiment inexistante. Ça n'existe pas tant. Là. Fait que, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de valeur dans un contexte de gym. Quand l'installation n'est pas tant un problème, tant que tu as l'espace et que tu peux te permettre idéalement d'avoir deux barres, d'en garder une loadée ou de loader ton autre barre pendant que tu fais d'autres affaires, justement, pour comme, minimiser tes temps de repos, où est-ce que tu peux t'échauffer. Puis quand tu arrives, mettons, tu fais ton squat, ben, à tes dernières séries, tu commences à t'installer pour ton hip thrust, tu montes ton setup, puis après ça, tu commences à faire tes warm-up. Mettons, ben, là, comme ça, tu limites vraiment l'aspect de tannant parce que tu le fais dans tes temps de repos d'un autre exercice, tu sais, par exemple. Mais ça, ça peut vraiment avoir de la valeur comme ça. Quand dans le contexte de matériel limité, c'est vraiment bon. Ceux qui ont un mauvais mind muscle, je compte qui la plupart du monde, je compte des femmes, je continue de croire que c'est une excellente alternative. Alternative. Pour ça, pour vrai, ça a beaucoup, beaucoup de valeur puis ça devrait vraiment être priorisé. Dans une optique de force, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment faire le job. Puis somme toute, il y a une corrélation qui est vraiment, vraiment importante au niveau de la force puis du développement musculaire. Fait que c'est pas parce que c'est pas the best de shit que ça vaut vraiment pas la peine d'être fait. C'est juste qu'il faut le mettre dans un contexte un peu plus large. Pour moi, ce n'est plus un big lift, puis je pense pas pour personne ça devrait. Même le concept du big lift est un peu naïf. Là. Des bench squat dead sont tout ce que tu as besoin, des comme oui, puis non, plus non. Genre, tu sais, moi, c'est plutôt un concept que je crois, puis même dans des podcasts, c'est un concept que j'ai dit avant dans le passé. Je pense ça. Je pense que c'est naïf de t'enfermer derrière une liste d'exercices qui sont genre ça, c'est ce qui compte, ça, c'est ce qu'il faut que tu pousses parce qu'il y a tellement de possibilités et il y a tellement d'affaires. Puis réalistiquement, c'est une conversation qui est plus compliquée parce que dans un optique de débutant ou dans une idée de débutant, honnêtement, man, si tu as quelqu'un qui commence à s'entraîner, vraiment, vraiment débutant absolu, tu lui mets juste du bench, juste du squat, juste du dead, juste des pull-ups ou des variantes de pull-ups, jour de press, par exemple, tu y montes à lifter comme du monde, tu y montes vraiment avoir une bonne technique, je te jure qu'il va y avoir d'excellents résultats en commençant, puis ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, tu sais. Fait qu'en même temps, c'est des excellentes alternatives, c'est juste qu'il ne faut pas les rendre à une étape de Dieu non plus. Puis ça, c'est quelque chose, c'est probablement une erreur que j'ai faite dans le passé. Au niveau des alternatives, je vais prendre pour acquis que vous entraînez dans un contexte de gym conventionnel en ce moment, parce que si vous entraînez dans un gym, home gym fermé, ben là, les alternatives sont un peu plus difficiles. La première fois que je vous conseille d'avoir, qui est probablement ce que moi j'ai mis dans les programmes de la plupart du monde à cette heure, c'est le Nautilus Hip Drive, qui est une machine à hip thrust. Là, tu me dis, ouais, Alex, tu viens de me dire que c'était pas bon au hip thrust ou que c'était moins bon, puis là, ça mettait pas de tension en position excentrique, puis papapapapap, mais t'es comme, cette machine-là, ça l'enlève le gros reproche que j'ai au hip thrust, qui est fuck que c'est de la merde s'installer pour un hip thrust. Ça enlève ce gros côté-là parce que la machine, elle sert juste à ça. T'as pas de barre qui t'écrase les hanches. Souvent, c'est une genre de sangle ou c'est une genre de. Ça ressemble un peu à une ceinture de char, là, genre que tu te mets et tu t'attaches au niveau des hanches. Puis c'est comme un tissu, fait que c'est beaucoup plus doux. La tension est beaucoup plus soft aussi quand tu le mets dessus une poulie, fait que c'est une machine, fait que la tension est beaucoup plus stable, un petit peu plus. Le ressenti est un peu meilleur, ce qui vient accentuer les bons côtés du hip thrust. Puis surtout, l'installation est vraiment, vraiment moins chiante, qui est juste une machine d'Apechos. En fait, un Nautilus Zip Drive, il y en a plein de variantes. Si je ne me trompe pas, Nautilus Zip Drive, c'est la première qui a été inventée comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment une belle machine, ça travaille vraiment bien. Encore là, si on suit l'idée du podcast, ce n'est pas la seule machine de fessier que vous devriez faire, mais je vous dirais, la plupart du monde, vous allez ôter tous les côtés négatifs au barbell Apechos juste en faisant sa machine, si vous avez accès à sa machine. La seule affaire, c'est que généralement, cette machine-là est excessivement populaire dans un gym. Souvent, il y en a juste une. Fait que là, tu te ramasses à attendre ou à racheter une autre contrainte logistique qui vient avec ça. Fait que là, juste t'assurer que t'as pas échangé 4,25 cents pour une pièce ou est-ce que t'as pas tradé genre une installation merdique là-bas pour une machine qui est tout le temps prise et que t'es pas capable de faire. T'sais. Mais ça, c'est vraiment, vraiment une excellente alternative, sincèrement. Une autre machine que j'ai découverte, que j'ai redécouverte récemment, qui était fun fact, quelque chose. C'est drôle à quel point, bien des trucs dans la vie, la question, c'est pas des découvrir, c'est des redécouvrir. T'sais. Comme il y a bien des livres que j'ai lus quand j'avais 20-21 ans, que je relis en ce moment. Il y a un livre en fait que je relis à chaque année qui s'appelle Méditation de Marc Aurèle, puis ça me fait capoter ce livre-là à quel point. Ça fait 12 ans, man, que je lis ce fucking livre-là à chaque année, puis à chaque année, j'apprends de quoi. Puis tu sais, il y a bien des trucs dans même dans la vie qui sont importants, puis il y a un exercice que moi j'ai redécouvert, que je faisais beaucoup, beaucoup avant dans le temps de mon premier gym, parce que c'était pas mal la seule alternative de fessier qu'il y avait dans le temps. C'était un hip extension. Ça, sincèrement, hip extension, particulièrement à 45, que moi j'aime mieux. 90, il faut faire la job bien en masse, pas un problème. Mais moi, j'aime bien 45 parce qu'il est plus simple et plus confortable, un peu de setup et d'installation aussi. Puis juste, là-dessus, tu peux avoir un gros stretch. Tu peux vraiment, vraiment te faire des pauses en position étirée. Tu peux vraiment, vraiment descendre puis contrôler. L'amplitude est un peu plus grande que l'Hipchus, mais quand même pas tant plus grande, fait que ça reste relativement comparable. Mauvais côté d'un hip extension, c'est que c'est pas une machine que tu peux loader en mongol, par exemple, parce que c'est toi qui te penches, mettons. Fait que oui, tu peux mettre une plate sur toi aux affaires d'un, mais tu ne mettras pas 100 livres sur une barre et tu ne sacreras pas ça dans le dos. Ce qui était fun fact, c'est que beaucoup d'haltérophiles russes faisaient dans le temps. Non, c'est chinois. C'est des Chinois qui faisaient ça. Puis au-delà de le faire sur un 45, man, ils se sacraient sur un 90. Fait qu'ils étaient tout croche, genre, sur une machine qui essentiellement met leurs hanches dans le vide, leur dos dans le vide, leur corps dans le vide, genre. Puis ils sont attachés par les pieds sur une machine qui est quand même assez haute avec une barbelle dans le dos, là. C'est très commun comme vieille école d'haltérophilie, là. Mais à moins que tu sois chinois ou russe, c'est un exercice qui est quand même difficile de mettre une bonne charge. Par contre, pour aller chercher des grosses pauses, pour vraiment stretcher les fessiers, ça fait vraiment, vraiment un job quand tu as un bon mind muscle. Puis ce que je vous suggérerais de remplacer, c'est des fucking heavy lunges, là. Des grosses fentes vraiment lourdes, avec une barre, avec des dumbbells, ou est-ce que tu focuses vraiment, même une barre idéalement, parce que si tu fais pas mal de reps, tu risques d'être limité par ta grip assez vite avec des dumbbells, ou est-ce que tu focuses vraiment, vraiment sur pousser tes fesses en arrière puis garder ton tronc droit, puis ça fait une sale job au niveau des fessiers. Principalement aussi quand tu commences à être avancé, tu peux le faire en walking lunge aussi si ton gym te permet de le faire, puis ça fait vraiment, vraiment une super belle job. Sinon, n'importe quelle variante de bulgarian split squat, c'est tous les bons côtés de ce que j'ai dit, où est-ce que tu peux mettre relativement lourd là-dessus, mettons sur une lunge, tu peux mettre relativement lourd, après ça tu peux élever ton pied en avant ou dire non même, puis des alternatives de lunge, je pense que c'est vraiment, vraiment le best, ça se met toutes les variantes qui existent en fait, tu peux vraiment avoir un tempo concentré, un tempo lent, ce qu'on a moins avec les Hipchus, tu peux être une bonne charge, ce qui est un avantage du Hipchus, tu peux faire une pause en position contractée, une pause en position étirée, ce que tu peux pas t'en faire avec les Hipchus, l'installation est vraiment, vraiment fucking moins chiante. Fait que ça, c'est plus celui-là que je mets à cette heure, je vous dirais, pour la plupart du monde. Je pense que ça a plus de valeur et c'est plus simple. Pas que le hip thrust n'a pas de valeur, c'est un excellent exercice. Si vous avez envie de le faire, continuez de le pousser. C'est un bon exercice qui va donner des bons résultats. Mais c'est un changement quand même assez prononcé. Puis c'est un changement qui s'est vraiment fait de manière graduelle. Là, je dis ça, puis là, ça a l'air. Bon Dieu, j'ai changé d'idée cette semaine, mais ça fait comme 2-3 ans que j'ai commencé à en mettre un petit peu moins. Tandis qu'avant, dans mes workouts, il y a 4-5 ans, il y en avait partout, man. J'en mettais tout le temps à tout le monde. Puis il y a bien des gars qui m'haïssaient pour ça d'ailleurs. Fait que ça, c'est quand même un bon petit changement, je vous dirais, sur conceptualiser les Hipchus. Pour faire un petit warm-up, il y a des bons côtés Hipchus. Il y en a vraiment, vraiment une coupe. C'est un exercice qui est simple à faire. Le ressenti musculaire est bon pour la plupart du monde. Il y a bien du monde qui l'aime bien. Puis il y a aussi une couple d'autres bons côtés à faire. Côté négatif, l'excentrique n'est pas vergeux. C'est vraiment dur de faire une pause en position étirée, ce qui est le best pour l'hypertrophie. Puis il y a quand même d'autres machines qui permettent d'avoir un effet similaire ou d'autres alternatives qui permettent d'avoir un effet similaire sans avoir la composante logistique d'un Hipchus qui est vraiment fucking lourde. Fait que ça semble pas mal à ça. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié le podcast. N'hésitez pas à vous rendre ces fameux emails. Si vous avez aimé le podcast, c'est sûr que vous allez aimer l'email. Le lien dans la description. Je vous laisse avec la fin de la toune, puis on se reparle très bientôt, tout le monde. Ciao, bye!
pretend and they sink in feeling due. I'm feeling exhausted, I just wanna be free to call myself from death's front door and not let him capture me. I just can't help but say that we should know better, we should know better, and I just can't help but feel like we should know better.
You see?